Et après Mandela et la question de la cohésion sociale, nous savons que l'apartheid donc a été aboli il y a plus de 20 ans, mais nous savons bien également qu'il ne s'agit pas seulement donc de faire des lois, d'abolir l'apartheid pour que le vivre ensemble à l'intérieur d'un État, à l'intérieur d'une nation, change du jour au lendemain. Il y a une histoire, il y a des coutumes, il y a des habitudes, et pour que tout cela change, il faut du temps. La nation arc-en-ciel est-elle véritablement une nation arc-en-ciel? Je crois que Philippe Gervais-Lamboni a une lecture de ce drapeau à arc-en-ciel, donc je lui laisserai donc cette explication. Philippe Gervais-Lamboni est professeur à Paris 10, Paris Ouest, Paris Nanterre, géographe, vice-président de cette université de Paris 10, chargé tout spécialement de la recherche. Il est l'un des meilleurs, je devrais presque dire le meilleur, mais je dis l'un des meilleurs spécialistes de l'Afrique du Sud, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages. Il a d'ailleurs été à Johannesburg directeur scientifique de l'Institut français d'Afrique du Sud, dont il a créé le département de recherche en sciences sociales. Et puisque je parlais de ses ouvrages, je vais en citer seulement quelques-uns. L'Afrique du Sud et les États voisins, le dernier, qui est paru chez Armand Collin en 2013. Également un ouvrage paru dans la petite collection Les idées reçues au cavalier bleu, qui s'appelle justement L'Afrique du Sud, idées reçues, paru en 2009. Et le très beau numéro spécial de la documentation photographique de juin 2012, consacré justement à l'Afrique du Sud. Donc, je lui laisse la parole sans attendre pour justement nous parler de cette question si importante dans cette Afrique du Sud contemporaine de la cohésion sociale. Merci à vous, Philippe Gervais-Lamboni.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction trop flatteuse. Vous voyez tout de suite qu'il y a une grande image derrière moi dans ce magnifique amphithéâtre. Je voulais ouvrir sur cette image ce que je vais essayer de dire sur l'Afrique du Sud, sur cette question importante dans tous les pays du monde, la question de la cohésion sociale, disons, de ce qui permet à une nation de fonctionner, c'est-à-dire un minimum de cohésion, un minimum de convergence entre les citoyens d'un pays, importante dans tous les pays du monde, mais particulièrement importante maintenant, exactement maintenant, en Afrique du Sud. Maintenant, c'est-à-dire à certainement un moment de virage important. Nous savons tous que nous avons perdu l'icône Nelson Mandela il y a quelques semaines maintenant, et j'essayerai de dire pourquoi c'est important et en quoi c'est lié à cette question de cohésion sociale. Et important aussi parce que d'ici 3 mois, en avril, au mois d'avril prochain, se tiendront en Afrique du Sud des élections nationales, législatives et provinciales, qui amèneront soit de nouveau le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, au pouvoir, soit pas. Et j'essayerai aussi de vous dire quelques mots de cette situation politique qui, évidemment, est liée à des problèmes sociaux, bien sûr aussi économiques, mais je parlerai surtout de questions sociales et culturelles aujourd'hui, sachant que si je suis toujours invité à la fin de cette conférence, je reviens la semaine prochaine, là pour parler plus précisément des villes sud-africaines, qui est vraiment le cœur de mon objet de recherche. Je suis géographe et urbaniste, et je travaille essentiellement sur les villes sud-africaines. Donc, je voulais ouvrir par cette image d'enfant assis devant une maison d'un quartier populaire de... Vous êtes à Soweto, là, c'est donc dans le plus grand township noir, c'est-à-dire ancien ghetto noir d'Afrique du Sud. Une image d'enfant, parce que je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qu'on a tendance à oublier quand on regarde l'Afrique du Sud depuis l'Europe, c'est que 50% de la population sud-africaine. Ça résonne, je me suis trop près peut-être. 50% de la population sud-africaine a moins de 20 ans. Si on pense à 20 ans. Celui-là.
Vous pouvez l'éteindre de.
Ça résonne, je suis désolée, monsieur.
Je vous en prie.
Oui, mais ça ne s'éteint pas du tout. Bon, allez-y.
Alors, 20 ans, je ne dis pas 20 ans au hasard, 20 ans, c'est la durée exacte qui, cette année, nous sépare de la fin, tout à fait la fin du régime d'apartheid, puisque 1994, c'est la date de l'élection de Nelson Mandela, première élection libre en Afrique du Sud, et nous sommes en 2014. 50% de moins de 20 ans, ça veut dire 50% de la population qu'on appelle « born free », née libre, née après l'apartheid, qui ne sont donc pas du tout dans la même situation que leurs aînés qui, au fond, avaient vécu l'apartheid. Et je pense que quand on regarde l'Afrique du Sud de loin, aujourd'hui, on a tendance à la voir comme, oui, l'ancien pays de l'apartheid. D'abord comme l'ancien pays de l'apartheid. D'abord comme le pays où Nelson Mandela, grâce à son habileté politique et son charisme et tous ses talents, avait réussi à faire disparaître ce régime raciste sans trop de violence, ou en tout cas avec moins de violence qu'on aurait pu l'imaginer, pour passer à un régime démocratique. Si 50% de la population a moins de 20 ans, ça veut dire qu'il y a d'autres questions, d'autres façons de voir les choses, d'autres références au passé en Afrique du Sud même, et je pense que c'est essentiel, et je voulais commencer par cela, parce que la question de la cohésion sociale, elle est vaste, bien sûr, elle se pose en termes, en Afrique du Sud, elle se pose toujours en termes de race, bien sûr, du fait de l'héritage de l'apartheid et de son découpage de la population en quatre grands groupes raciaux. Je ne vais pas y revenir longuement, mais quatre grands groupes raciaux. Les Noirs, aujourd'hui, sur les 53 millions de Sud-Africains, à peu près 80% de la population. Les gens, disons, des groupes de langue bantoue, population noire sud-africaine. Les populations blanches d'origine européenne, aujourd'hui, un peu moins de 9% des Sud-Africains. Les populations dites indiennes ou asiatiques, c'est-à-dire descendants d'immigrants importés à l'époque de l'Empire britannique, importés d'Inde à l'époque de l'Empire britannique, aujourd'hui 2,5% de la population sud-africaine. Et puis quatrième groupe, je le place en quatrième parce qu'il est le plus difficile à définir, groupe qu'on appelle en anglais les coloreds, qu'on peut traduire en français par coloré, que vous trouvez souvent traduit par métis, mais en fait, coloré, ça voulait dire, sous l'apartheid, ni noir, ni blanc, ni indien. Donc, y compris les populations effectivement métisses, mais aussi des descendants d'esclaves importés de Malaisie dès le XVIIIe siècle, mais aussi des descendants d'aborigènes sud-africains, les fameux Khoisan et Khoikhoi, des esclaves venus d'Indonésie, de Malaisie, aussi des esclaves malgaches. Donc, au fond, c'était la définition la plus négative, c'est-à-dire que vous n'étiez simplement pas classable dans un autre groupe. Et qui représente aujourd'hui, 9% de la population sud-africaine. Je dis aujourd'hui, car il faut savoir que dans les recensements de population actuelle en Afrique du Sud, on continue de poser la question de l'appartenance à un groupe racial. À quel groupe racial appartenez-vous ? Mais à l'inverse de l'époque antérieure où la question n'était pas posée, mais on était assigné à une identité raciale, on continue à poser la question. Il est néanmoins possible de répondre aucun, ou je ne souhaite pas répondre, ou je ne veux pas répondre. Mais enfin, l'argument est bien sûr que pour réparer les injustices du passé, l'État sud-africain considère qu'il a toujours besoin de savoir quelles sont les répartitions entre groupes raciaux et où sont situés les groupes raciaux historiquement, dits historiquement défavorisés, pour pouvoir avoir des politiques en leur faveur. Donc voilà, ça c'est évidemment la question raciale, elle est classique sur l'Afrique du Sud, et on y reviendra, elle continue d'exister, elle continue d'être très réelle dans la vie des gens, dans les discours politiques, dans les représentations des gens. Mais la question de la cohésion sociale, c'est évidemment aujourd'hui aussi question de génération, d'où cette remarque sur le poids énorme des plus jeunes dans la population sud-africaine. C'est aussi, bien sûr, aujourd'hui une question sociale, strictement sociale, de classe sociale, pour reprendre un vocabulaire marxiste, ou de groupes sociaux. Mais une des caractéristiques de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est un renforcement, un accroissement des inégalités sociales depuis 20 ans, depuis la fin de l'apartheid. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais un pays où le taux de chômage dépasse les 30% de la population active, un pays où entre 40 et 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, mais en même temps un pays où depuis 20 ans a émergé une nouvelle élite noire sud-africaine, une nouvelle classe moyenne qui s'est très largement développée. Voilà ce qui fait un petit peu dire l'écart se creuse. L'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, mais l'écart se creuse aussi entre ceux qui sont dans le système économique actuel, c'est-à-dire qui sont salariés, qui sont employés, et ceux qui n'y sont pas. Et là, vous avez ces 30-35% de chômeurs, vous avez ces gens qui vivent dans des conditions de pauvreté extrêmes. En tout cas, le rattrapage promis, espéré en 94, n'a pas eu lieu ou n'a pas eu assez lieu pour qu'on puisse dire on a affaire à un succès. Et ce qui domine aujourd'hui, souvent, c'est un sentiment de grande déception. C'est une large partie de la population sud-africaine, étant donné tout ce qui était espéré du changement politique. Alors pour moi, qui suis géographe, bien sûr, la cohésion sociale, c'est aussi une question territoriale. C'est aussi une question d'organisation de l'espace. Donc j'aurai aussi un certain nombre d'éléments sur cet aspect des choses. Monsieur Zapiro est un dessinateur, humoriste, caricaturiste sud-africain extrêmement célèbre, dont les dessins apparaissent dans la presse quotidienne, dans la presse hebdomadaire. Voilà où nous en sommes, hein, donc la fin de l'ère Mandela. La fin de l'ère Mandela. Mais ce dessin date de 1999, et non pas d'il y a quelques semaines. On voit deux personnages tristes au bord de la mer, regardant disparaître le visage souriant de Nelson Mandela. C'est la fin, c'est la fin d'une époque. Mais la fin d'une époque en 1999, c'est le moment où Nelson Mandela quitte le pouvoir et laisse la place, lors d'élections, à son successeur Thabo Mbeki. Pourtant, cette image est toujours d'actualité. On peut dire aussi que la fin de l'ère Mandela, elle se place maintenant. C'est étrange parce que 1999, c'était il y a 15 ans. Il y a bien peu d'hommes politiques qui, pendant 15 ans après leur retrait de la vie politique, continue d'avoir une telle dimension, un tel poids. On pourrait dire politiquement la disparition, le décès de Nelson Mandela, ça n'a pas d'importance. Ça fait 15 ans qu'il n'est plus aux affaires, et réellement plus aux affaires. C'est pas qu'il est dans l'ombre derrière tirant des ficelles, absolument pas, réellement retiré. Et pourtant j'ai reçu encore, c'est la période des vœux en ce moment, et j'ai reçu la carte de vœux d'une amie sud-africaine qui disait voilà, nous sommes sous le coup du décès de Nelson Mandela. Nous espérons que pas trop de choses mauvaises vont arriver après son départ. Parce que c'est pas simple, Nelson Mandela, bien sûr, ce n'est pas seulement un homme politique, c'est précisément un des éléments de la cohésion nationale. C'est certainement ça qui met aujourd'hui l'Afrique du Sud dans l'inquiétude. Un personnage qui représente une époque, qui représente un certain type de contrat de société pour l'Afrique du Sud, celui fondé sur la réconciliation post-apartheid. Et que se passe-t-il, ensuite ? Alors voilà Nelson Mandela, ça c'est au moment où il va voter aux élections nationales de 2004. Il est l'homme qui a mis en place le nouveau système démocratique sud-africain, avec des élections tous les 5 ans, avec des élections tout à fait démocratiques. Sur le continent africain, ce n'est pas un fait si fréquent que ça, avec un jeu des partis politiques et bien sûr une domination de l'un d'entre eux, l'African National Congress. Un mot sur ce parti, l'African National Congress, qui est un vieux parti politique créé au début du XXe siècle, mais dont on a trop souvent l'impression qu'il est monolithique, qui est un parti en fait compliqué, composé de courants divers, en désaccord les uns avec les autres. Grosso modo, deux grands courants. L'un qu'on dit nationaliste, c'est-à-dire qui revendique l'identité sud-africaine et l'identité noire sud-africaine, et qui lie au fond l'histoire de l'Afrique du Sud et la société sud-africaine, plutôt en termes de groupes raciaux, c'est-à-dire nous avons été exclus, nous avons été opprimés sous l'apartheid, maintenant le pouvoir est pris par des hommes et des femmes noirs qui viennent de ce groupe anciennement opprimé. Et puis un autre courant qu'on dit plutôt socialiste, qui lui lit plutôt l'histoire et la société sud-africaine en termes de classe sociale, et qui donc se veut beaucoup plus multiracial, beaucoup plus intégrateur sur le plan racial, par contre, qui va avoir un discours de politique économique beaucoup plus socialiste, donc beaucoup plus tourné vers la redistribution, des politiques de nationalisation, des politiques de réforme foncière. Et ça ne donne pas des politiques identiques, hein, donc c'est une tension forte. Et j'ajoute, ce n'est pas l'ANC seule qui gouverne l'Afrique du Sud depuis 1994, mais en fait une alliance, qu'on appelle l'alliance tripartite, qui associe l'ANC, parti dominant, mais aussi le Parti communiste sud-africain, et aussi le mouvement syndical, la grande confédération des syndicats sud-africains, qui s'est constituée dans la lutte contre l'apartheid dans les années 80 et qui reste le plus puissant groupement syndical qu'on appelle la COSATU, là, qui donc signifie le Congress of South African Trade Unions, donc la Confédération des syndicats sud-africains. Alors de nouveau Nelson Mandela, mais la plus grande statue en pied existante de Nelson Mandela, j'ai parlé de son côté icône qui construit la nation sud-africaine, son côté homme politique, leader de l'ANC. Là, vous êtes au centre du grand complexe commercial, financier, lieu des sièges sociaux des principales entreprises sud-africaines dans les banlieues nord de Johannesburg. Le quartier qui s'appelle Sandton, et vous êtes au cœur de cet ensemble de Sandton City. Nelson Mandela, c'est aussi ça, c'est aussi une image commercialisée. D'ailleurs, vous pouvez acheter à l'aéroport de Johannesburg des chemises de Nelson Mandela, des cravates Nelson Mandela, toute une réabsorption par la nouvelle société sud-africaine, toute une réabsorption de Nelson Mandela par le monde économique libéral, qui est aussi celui de l'Afrique du Sud, donc du côté, là, bien sûr, des plus aisés, des plus favorisés aujourd'hui, des plus riches, qui ne sont plus seulement les populations blanches, mais qui sont aussi une partie minoritaire, très minoritaire, de la population noire et indienne surtout en Afrique du Sud. Alors, je reprends un dessin de Zapiro, j'adore ce dessinateur, et je trouve qu'il en dit beaucoup. Celui-là date de 2010, et vous y voyez donc Nelson Mandela en 1990, à sa date de sa libération de prison, qui regarde l'Afrique du Sud de 2010. Et qu'est-ce qu'il voit dans l'Afrique du Sud de 2010 ? Il voit des manifestations, des mouvements sociaux, des protestations, et des protestations contre, alors, la corruption, qui est un des traits qui caractérise aujourd'hui la classe politique, enfin une partie en tout cas de la classe politique sud-africaine. Les scandales sexuels, il y en a beaucoup, et beaucoup notamment autour de la personne de Jacob Zuma, l'actuel président lui-même, hein, qui juste avant son élection à la présidence de la République a été acquitté dans un procès pour viol. Non-delivery, c'est le panneau qui se trouve le plus à la droite de l'image, c'est-à-dire non fournis, promesses non tenues, et notamment pas assez de logements, pas assez d'adduction d'eau, pas assez de routes goudronnées, pas assez d'adduction électricité. Et Nelson Mandela, voyant cette situation, se dit, mais on est 16 ans après, finalement, est-ce que je sors? Est-ce que je sors? L'Afrique du Sud aujourd'hui est caractérisée par cela, par la déception, par l'inquiétude sur l'avenir et par ces différents types de problèmes que je viens de citer, bien sûr par d'autres problèmes, hein, bien sûr par le drame du sida qui marque l'Afrique du Sud depuis plus de 20 ans aussi, qui est aujourd'hui encore la première cause de mortalité en Afrique du Sud. Elle est caractérisée par tout ça et donc par des tensions sociales fortes, des inquiétudes. Mais elle est aussi caractérisée par des moments forts, au contraire, de rencontres et de cohésion. Ces moments forts, au mois de décembre, à la mort de Mandela, on a vu les gens très spontanément dans les rues se réunir, se rassembler. Il y a eu un moment fort de cohésion nationale. Quelques années en arrière, la Coupe du monde de football a été un moment extraordinaire d'enthousiasme et de cohésion. Et si je remonte dans le temps, on peut aller jusqu'à la Coupe du monde de rugby de 1995. Et puis, bien sûr, les premières élections multiraciales de 1994. L'Afrique du Sud, c'est tout ce paradoxe. Aujourd'hui, des tensions très fortes et en même temps des moments où les Sud-Africains se retrouvent. Et je vous avoue que, du coup, je suis très, très hésitant. On est très hésitant. C'est très difficile de dire ce qu'il en est. C'est l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est l'archevêque Desmond Tutu qui a le premier utilisé cette expression à propos de l'Afrique du Sud, mais il l'a reprise d'Amérique du Nord, en fait. Il l'a reprise des États-Unis et du révérend Jesse Jackson à l'origine. Et elle a longtemps été, elle est toujours une des expressions qu'on utilise. L'Afrique du Sud, c'est la nation arc-en-ciel. C'est-à-dire, c'est un peu ennuyeux quand même. C'est-à-dire des bandes de couleurs juxtaposées. C'est pas tout à fait, l'arc-en-ciel ne symbolise pas tout à fait le mélange, l'intégration, mais la vie ensemble côte à côte. On fait souvent aussi remarquer que dans l'arc-en-ciel, sauf si je me trompe, il n'y a pas de noir et il n'y a pas de blanc. Mais c'est accessoire. Il y a une autre image pour la nation sud-africaine qui est souvent utilisée aussi, qui est plutôt celle du fleuve. Du fleuve avec ses affluents, et ses affluents, ce sont ces différentes communautés, ces différents groupes, mais dans l'image du fleuve, à la différence de l'arc-en-ciel, il y a un moment où tout se rencontre et où tout constitue donc la nation sud-africaine. Et c'est entre ces deux choses-là que j'hésite. Je parlais de Desmond Tutu et bien sûr de Nelson Mandela. Alors j'ai trois images et trois choses dont je souhaiterais parler qui ne sont pas réjouissantes et qui me semblent caractériser les fractures sociales actuelles, les fractures fortes de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ce dessin a été fait en 2008 à un moment de tristesse pour l'Afrique du Sud qui était un moment, vous en avez sans doute parce que j'ai entendu parler à cette époque parce que ça a été dans la presse internationale, ça a été particulièrement choquant. De ce qu'on a appelé les violences xénophobes. C'est-à-dire les tueries de personnes pointées du doigt comme étant des étrangers en Afrique du Sud par des Sud-Africains noirs dans les quartiers populaires. Les anciens opprimés, tout d'un coup réutilisant des outils de violence qui étaient ceux de l'époque de l'apartheid contre des étrangers. L'Afrique du Sud aujourd'hui est évidemment en Afrique un poids lourd économique, un pôle d'attraction des populations migrantes extrêmement fort, et plusieurs millions d'étrangers, alors venant de la région, beaucoup du Mozambique, du Malawi, de Zambie, venant aussi d'Afrique occidentale jusqu'à l'Afrique du Nord, habitent en Afrique du Sud, vivent et travaillent en Afrique du Sud. Et bien sûr, il y a un pays que j'ai oublié de citer dans ma petite liste, c'est le Zimbabwe. Le Zimbabwe, étant donné sa situation économique depuis une quinzaine d'années, là, le Zimbabwe a presque un quart de sa population qui a quitté le pays, et notamment vers l'Afrique du Sud, qui est le pays voisin frontalier. pourquoi est-ce que tout d'un coup on a ce phénomène extraordinaire du pays théoriquement de l'intégration et du post-apartheid où on va tuer les gens. Alors je dis tuer, oui, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts notamment exécutés souvent selon des méthodes vraiment qui rappellent le passé. Et ce qui a beaucoup choqué, c'est l'usage du pneu enflammé, qui était la méthode avec laquelle on éliminait les personnes jugées collaborateurs sous l'apartheid, c'est-à-dire un pneu qui vous immobilise, qui est imbibé d'essence et auquel on met le feu. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de violence, hein, typiquement un mouvement xénophobe qu'on pourrait trouver dans beaucoup, sinon la plupart des pays du monde, ces étrangers, ces immigrants, dans une situation économique mauvaise, avec un taux de chômage très élevé, sont les boucs émissaires tout d'un coup désignés. Autre forme de fracture et de violence, de plus en plus courante en Afrique du Sud aujourd'hui, la manifestation, d'une nature complètement différente, bien sûr, la protestation contre, ce que je vous disais, la non-fourniture de services, la mise en cause de l'État comme étant corrompu, comme ne tenant pas les promesses de la fin de l'apartheid, et des mouvements sociaux qui se multiplient, et qui se multiplient depuis 4-5 ans de façon intensive. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un événement, il n'y a pas un mois. Il y a encore quelques jours, dans le nord du pays, trois personnes ont été tuées par la police lors de manifestations contre la police dans un ancien Bantoustan, un ancien homeland. Et c'est un événement assez symptomatique. Une jeune femme a été retrouvée morte dans un quartier populaire, sans ses mains. On a retrouvé son cadavre sans ses mains. Les habitants du quartier sont allés manifester devant le poste de police pour réclamer une action de la police, et notamment pour réclamer qu'on recherche les parties du corps manquantes pour pouvoir enterrer la personne. Et ceci a tout simplement complètement dégénéré, la police tirant sur la foule et tuant une personne, puis deux personnes. Et ces mouvements de violence, plus ou moins spontanés, plus ou moins manipulés par des partis politiques d'opposition, notamment à l'extrême gauche de l'échiquier politique, se multiplient. Et puis troisième chose, et ça sera, je pense, le dernier dessin de Zapiro, celui-là date de 2012, du mois d'août 2012, et vous voyez la présentatrice du journal télévisé qui dit « Bonsoir Afrique du Sud ». Remontez vos montres 30 ans en arrière. Au mois d'août 2012, il s'est passé un événement, je pense, d'une grande importance en Afrique du Sud, et je m'aperçois que j'ai oublié de regarder l'heure. Faut faire attention à moi, faut pas me laisser... Mois d'août 2012, 34 personnes, 34 mineurs sont abattus par les forces de l'ordre sur une mine de platine au nord-ouest de Johannesburg, sur les terrains d'une mine de platine. Ce sont des mineurs grévistes qui, depuis plusieurs semaines, sont en grève et réclament une augmentation de salaire. Jamais un événement pareil n'était arrivé depuis la fin de l'apartheid. Jamais un tel nombre de morts, hein. Non pas des affrontements avec la police, oui, mais jamais un tel nombre de morts. Et puis, symboliquement, c'est la police d'Afrique du Sud aujourd'hui qui tire sur des ouvriers grévistes, c'est-à-dire, au fond, sur ceux qui, à l'époque de la lutte contre l'apartheid, étaient la pointe, étaient devant, on faisait des grèves pour renverser ce régime. On a assimilé cet événement d'août de 2012 à un autre événement historique. On l'a comparé à un autre événement historique qui, lui, date de mars 1960. 21 mars 1960, l'événement historique majeur dans l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est le massacre dit de Sharpeville, le massacre de Sharpeville. Je ne sais pas si cet événement est connu. Il a fait une soixantaine de morts. La police a tiré sur une manifestation anti-apartheid faisant une soixantaine de morts. Et c'est à partir de là que Nelson Mandela lui-même a décidé qu'il fallait changer de tactique dans la lutte contre le régime et passer non plus à une lutte légaliste, mais passer à une lutte armée. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti à faire entrer l'ANC, une partie de l'ANC dans la clandestinité, à créer la branche armée. Ça a été un événement majeur. Et même type d'événement, on tire dans le dos. À Sharpeville, on a trouvé les cadavres avec le cadavre de personnes abattues de balles dans le dos. À Marikana, en août 2012, on trouve la même chose. Les mineurs ont été, pour une bonne part d'entre eux, abattus d'une balle dans le dos, c'est-à-dire la police qui tire sur une foule en panique, sur une foule qui est en train de s'enfuir. Une partie de la presse sud-africaine a accusé, après Marikana, au fond, ou a jugé que Marikana, donc Marikana est le nom de cette mine, hein, où a eu lieu le massacre, donc on l'appelle maintenant le massacre de Marikana, a jugé que ce massacre, au fond, signifiait que le gouvernement ANC et Parti communiste, puisque un certain nombre de ministres du gouvernement sont membres du Parti communiste, le patronat minier et les forces de sécurité étaient au fond aujourd'hui dans une sorte de nouvelle alliance et que la lutte alors de la classe ouvrière devait se tourner contre cette alliance parce que c'était bien ça qui se passait. Et il y a un acteur qui a été particulièrement pointé du doigt, c'est le mouvement syndical. Parce que les mineurs qui ont été tués n'appartenaient pas à la COSATU, donc la confédération qui est alliée au régime, mais à un nouveau mouvement syndical très récent qui, justement, trouve la COSATU pas suffisamment revendicatrice, pas suffisamment trop alliée à un pouvoir qui aurait, au fond, trahi les idéaux des années 90 et serait devenu, alors économiquement, néolibéral, ayant adopté une doctrine comme quoi il faut d'abord la croissance économique et que cette croissance économique va permettre la redistribution aux plus pauvres, mais dans un deuxième temps, et pas l'inverse, qui était plutôt le discours de l'ANC quand il n'était pas encore au pouvoir. Et ça provoque une autre ligne de fracture. Et depuis cet événement, les grèves se sont multipliées. La COSATU, bien sûr, est devenue du coup beaucoup plus revendicatrice, et donc vous avez des grèves dans le secteur automobile, des grèves dans le secteur textile depuis 2012, et d'autant plus qu'on approche des élections dans quelques mois et où de nouveau l'enjeu et le débat politique est là. Faut-il poursuivre dans cette direction néolibérale ou faut-il revenir à des idéaux qui seraient les idéaux de l'époque de la lutte contre l'apartheid et de la fin de l'apartheid? Donc pour dire, les violences xénophobes, les émeutes, les révoltes populaires dans les quartiers, les troubles sociaux chez les salariés, dans les mines et dans l'industrie. Voilà ce qui est inquiétant pour la stabilité de l'Afrique du Sud et pour le maintien de ce qui était le contrat social établi par Mandela, qui était fondé sur la réconciliation entre les anciens opprimés et les anciens oppresseurs, entre les différents groupes raciaux. On a vu apparaître lors des cérémonies à Soweto pour Nelson Mandela, en l'honneur de Nelson Mandela, quand Barack Obama a pris la parole à la tribune, il a été acclamé. Quand Jacob Zuma a pris la parole à la tribune, il a été sifflé. Et faut bien placer ça dans la perspective de ces différentes tensions. Et pourtant, si je remonte un peu dans le temps et je reviens à cette époque de l'apartheid, là aussi, je suis un peu face à un paradoxe et une hésitation. Excusez-moi, je suis quelqu'un de très hésitant dans mes jugements. L'époque de l'apartheid, c'était bien sûr, et si vous voulez, je peux en redire quelques mots, bien sûr, le racisme érigé comme idéologie nationale par le gouvernement blanc. C'était en conséquence, alors, la classification raciale des individus. Chacun devait être classé, appartenir à un groupe racial. Selon le groupe racial d'appartenance, des droits différents, avec à un bout le groupe classé européen ou blanc avec tous les droits d'un pays normal, et à l'extrême, les populations noires, avec des droits réduits au strict minimum, que ce soit le droit de résider où elles le souhaitaient, donc contrôle de la circulation des populations, que ce soit le droit d'avoir tel ou tel emploi, c'est-à-dire un seuil au-delà duquel on ne pouvait pas accéder dans le domaine de l'emploi quand on était noir, et ainsi de suite. Et bien sûr, pas le droit de vote, des droits économiques, pas le droit de vote, pas le droit économique. Et ceci traduit dans l'organisation de l'espace, puisque selon sa couleur de peau, au fond, on était obligé, on devait résider à tel ou tel endroit, dans tel ou tel espace réservé, que ce soit en ville, dans certains quartiers, ou que ce soit à l'échelle nationale, dans des réserves, puis on a appelé ça des bantoustans, c'est-à-dire des territoires où devaient résider théoriquement les populations noires. Donc c'était la séparation la plus extrême. Séparation, bien sûr, vous le savez, aussi dans la vie quotidienne, c'est-à-dire les bus séparés, les lieux de spectacle séparés, les bancs publics, les célèbres images des bancs publics réservés aux blancs, des jardins publics à certaines heures accessibles aux noirs, avec toute une subtilité abominable de ségrégation et de séparation. Sur cette image qui est prise au fond d'une mine d'or, dans les années 50, d'une certaine façon, vous voyez cette séparation. C'est-à-dire, vous voyez l'homme blanc, qui est photographié. C'est lui qui regarde l'objectif. C'est lui qui est mis en valeur. Et vous voyez l'homme noir, qui, lui, est habillé de guenilles, ça me semble. Guenilles, c'est certainement le bon mot. Qui, au fond, lui, ne regarde même pas. Il ne regarde pas l'objectif. On voit bien qu'il est sous le commandement de l'homme blanc, c'est lui qui tient l'outil, c'est lui qui... Mais ils travaillent tous les deux. Ils sont tous les deux au fond de la mine. Et si vous avez un accident, tous les deux mourront au fond de la mine. Ce qui me frappe sur cette image et ce que je veux essayer de dire, c'est que, oui, l'apartheid, c'est ça, c'est la séparation, strictement, très forte. Et puis avant l'apartheid aussi, avant l'apartheid, avant 1948, donc c'est un régime colonial qui lui aussi est ségrégationniste et sépare, et moins systématiquement, mais qui sépare aussi. Mais en même temps, on est dans un pays où depuis le XVIIe siècle, mais à l'échelle de l'ensemble du pays, depuis au moins la fin du XIXe siècle, on est proche dans l'espace, on est souvent dans des mêmes lieux. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont passés entre ces différentes communautés raciales, dites raciales. C'est-à-dire que quand ces deux hommes vont sortir de la mine, ils vont se diriger vers des quartiers de résidence ségrégés, ils vont avoir des vies différentes. Au fond de la mine, ils ont des fonctionnements différents, et je ne suis pas en train de dire que l'un n'est pas opprimé par l'autre, mais simplement qu'ils se parlent, ils communiquent, ils travaillent ensemble, ils font des choses ensemble, et ce qui est très fort en Afrique du Sud, c'est aussi cette proximité. C'est aussi donc une époque paradoxale, et au fond, ce qu'il en reste des traits culturels communs qui font aussi la cohésion de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Par exemple, ici, vous avez un groupe de jeunes à Soweto. C'est une association de quartier qui réunit les jeunes donc dans un quartier dans une partie très populaire de Soweto, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de Soweto, mais j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. C'est une association qui organise les jeunes en groupes de danse et de spectacle. C'est une pratique très, très courante et importante dans les quartiers noirs sud-africains, et ces jeunes vont ensuite participer à des concours à l'échelle de Soweto, puis des concours à l'échelle de la ville, puis provinciale. Et ce qu'ils sont en train de danser, c'est ce qu'on appelle le gumboot dancing, la danse des bottes en caoutchouc. Bien connu parce que vous avez souvent des troupes sud-africaines qui viennent en France faire un spectacle notamment de ce type de danse. Les bottes en caoutchouc qu'ils ont au pied, donc ils ont mis au pied, servent à la fois à frapper le sol, et puis vous avez normalement des petits, là ils n'en ont pas, mais du fil de fer avec des capsules de bouteilles par exemple, qui quand vous bougez le pied, ça fait un cliquetis, ça bat un rythme, et puis les danseurs tapent avec la main sur la botte, pour faire aussi un son et un rythme. Ces bottes en caoutchouc, ce sont les bottes des mineurs. Ce sont les bottes des mineurs, elles viennent du fond de la mine, parce que le mineur avait des guenilles, certes, mais des bottes en caoutchouc pour descendre dans la boue et dans l'humidité du fond de la mine. Et ce sont des danses qui sont nées dans la mine, Et qui sont nés donc de cette relation entre groupes raciaux et qui sont aujourd'hui devenus un des traits culturels de l'Afrique du Sud, parce que c'est une des expressions artistiques sud-africaines. Je pourrais prendre d'autres exemples qui seraient plutôt dans le domaine culinaire, comme par exemple ce qu'on appelle en Afrique du Sud le braai, c'est-à-dire le barbecue, c'est-à-dire la coutume qui consiste à se réunir le week-end en chacun apportant sa viande, ou ses saucisses de bœuf, qui sont dites la bourrevours, donc la saucisse du bourg, donc la saucisse du... Le bourg étant le nom désignant l'Afrikaner, le paysan hollandais colon en Afrique du Sud, se réunir le week-end pour faire griller cette viande et faire ce plat. Et cette pratique-là, vous allez la trouver dans la population blanche, vous allez la trouver dans la population noire et vous allez la trouver dans la population colorée et indienne. Et ça aussi, ça fait partie des traits culturels. Donc il ne faut pas simplement voir une séparation absolue, il faut voir aussi les choses. Et ça me donne pas mal de... Ça me donne aussi de l'optimisme sur la capacité sud-africaine à se réunir, se rassembler. Mais en même temps, la séparation est aussi une relation de peur et de violence. J'aime bien aussi cette peinture, là aussi, pour revenir dans les temps de l'apartheid, qui date de 1946, une peinture de Gérard Sekoto, qui est un des tout premiers peintres noirs sud-africains, et qui représente donc ces hommes noirs en train de travailler. Ce sont des prisonniers. Qui font donc des travaux d'utilité publique, mais des travaux forcés d'utilité publique, sous la surveillance d'un contremaître responsable, gardien blanc. C'est un peu une métaphore, évidemment. On est 2 ans avant le début de l'apartheid lui-même, mais on est déjà dans la période de ségrégation. C'est un peu une métaphore, c'est-à-dire la population noire majoritaire, comme sur cette image, dominée, contrôlé, travaillant pour, exploité par la population blanche minoritaire. Et c'est un peu une métaphore de la société sud-africaine à l'époque. Au fond, on pourrait dire c'est une sorte de contrôle carcéral de la population noire pour utiliser cette main-d'œuvre nécessaire qu'on va à la fois vouloir repousser, mettre à l'écart, mettre à distance, mais en même temps dont on a besoin tout près. Parce qu'on en a besoin dans les usines, on en a besoin dans les mines, on en a besoin sur les fermes blanches. Donc l'apartheid permet à la fois de maintenir cette distance sociale, mais de garder les gens proches. Mais en même temps, ce tableau, il représente aussi, j'interprète comment il est construit, c'est-à-dire les personnages les plus grands en taille, ce sont ces hommes noirs, les personnages qui ont l'air d'avoir la force, la puissance. On a presque l'impression que les pioches vont s'abattre, non pas sur le sol, mais sur l'homme blanc, qui lui est petit en arrière-plan, certes les mains dans les poches, la pipe à la bouche et l'air. Mais en même temps, on peut l'imaginer inquiet face à cette puissance, ce nombre, cette force. Et la relation entre les deux groupes, elle a toujours été celle-là aussi. D'oppression, mais aussi d'inquiétude, de peur et du coup certainement de cercle vicieux. Hein. Plus on a peur, plus on contrôle, plus on a des systèmes policiers, plus on a des systèmes d'un appareil de justice qui permet de contrôler, d'essayer de contrôler, parce que l'apartheid n'a jamais vraiment réussi à complètement contrôler. À l'échelle nationale, l'héritage, le voilà, c'est la carte ici de l'Afrique du Sud telle qu'elle était avant 1994. La carte donc de l'Afrique du Sud, de la géographie de l'Afrique du Sud telle que l'avait construite l'apartheid. C'est la carte qui représente les 4 provinces blanches du Cap, de l'État libre d'Orange, du Transvaal et du Natal, et puis ce qu'on appelait les Bantoustans. C'est-à-dire des territoires, au départ, disons l'équivalent de réserves, sur lesquels, et seulement sur lesquels, les populations noires avaient des droits. Droits de résidence permanent, droits, et c'était l'idéologie de l'apartheid qui signifie bien un développement séparé, droits à leurs propres pratiques culturelles, développement culturel, partout ailleurs, on était en zone blanche, zone dite blanche, donc on ne pouvait vivre que si, théoriquement, que si on était utile à l'économie blanche, que si on avait un emploi en ville, que si on était employé dans une mine ou sur une ferme agricole ou sur une ferme blanche. Vous voyez la disproportion, hein, la disproportion en superficie, bien sûr, c'est-à-dire que la très grande majorité de la population aurait dû être théoriquement cantonnée sur ces espaces. Bien sûr, dans ces espaces, il n'y a pas de ville importante, pas de ressources minières importantes. Donc, le système consistait à faire migrer les gens depuis ces réserves vers la ville, par exemple, mais en ville avec un système de passeport intérieur qui disait votre lieu d'origine, votre employeur, qui indiquait votre employeur, et en cas de perte d'emploi, on était renvoyé dans son bantoustan. Si on vous attrapait, on était renvoyé dans son bantoustan. Avec toute une série d'avantages, j'ai pas le temps de développer d'avantages économiques, si on veut, pour l'économie blanche, puisque bien sûr, ça devrait signifier qu'une personne âgée, par exemple, à la fin de sa vie active, eh ben, on n'a plus à s'en occuper sur les terres blanches. Elle retourne dans sa zone rurale d'origine. Ça signifie aussi, théoriquement, si on pousse à l'extrême, que les plus jeunes, les enfants, ben, ils peuvent être éduqués dans la zone rurale et on ne fait venir, idéalement, que les hommes ou les femmes, en tout cas, en âge de travailler. Ce système, il se poursuit jusqu'en 1994 et on imagine très facilement ce qu'il laisse comme héritage: des zones de très forte densité, des zones où il n'y a aujourd'hui pratiquement plus d'activité agricole tellement les densités sont fortes. L'Afrique du Sud est autosuffisante sur le plan alimentaire, mais elle l'est du fait de ce qui est produit sur les anciennes terres réservées aux blancs, d'une agriculture commerciale, d'une nature complètement différente. Et vous voyez aussi que ces bantoustans étaient organisés par groupe ethnique. Et là, vous avez un point essentiel dont je n'ai pas encore parlé de la structure sociale de l'Afrique du Sud. Ce sont, on dit, groupe blanc, groupe noir, groupe indien, groupe coloré. Parmi la population noire, vous avez affaire à un certain nombre de groupes ethniques. Et l'apartheid a construit ça, parce que l'apartheid a défini ces bantoustans de manière ethnique. Si vous étiez de l'ethnie Zoulou, votre bantoustan, c'était le KwaZoulu, qui se trouve dans la province du Natal, vers l'océan Indien. Si vous étiez du groupe Xhosa, votre bantoustan, il était au sud du pays, à côté d'Islandon, pour Elisabeth. Il y en avait deux, soit le Siskai, soit le Transkai. Si vous étiez Venda, si vous étiez Swazi, ainsi de suite. Neuf grands groupes ethniques. Je dis bien, l'apartheid a construit ça, c'est-à-dire ces groupes ethniques, en fait, ils existent, hein, il y a des différences linguistiques, mais grosso modo, il y a surtout trois grandes familles ethno-linguistiques. Mais le régime d'apartheid de Pretoria a été très attentif à définir le plus strictement possible des groupes de taille plus réduite. C'est assez simple comme principe, hein. Le groupe blanc, du coup, devenait, parmi ces ethnies, un des groupes, voire peut-être même le plus important de ces groupes, et on divisait pour régner. Mais ça a construit des identifications très fortes, dans certaines régions en particulier. Voici Jacob Zuma, président d'Afrique du Sud. Cette image a aussi fait le tour du monde. Lors de son mariage avec sa troisième épouse. Sauf erreur, pas très longtemps après son élection, ça doit être 2010 ou 2011. Et lors des cérémonies traditionnelles zoulou, lors de ce mariage, vous remarquerez les baskets qui ont fait beaucoup jaser. Bien. On lui a beaucoup reproché cette cérémonie, disant que c'était au fond qu'est-ce qu'il voulait montrer. Alors, bien sûr, on lui a reproché plusieurs choses, hein, la troisième épouse, qui s'ajoute aux maîtresses, qui s'ajoute aux enfants illégitimes, etc., la troisième épouse. Et puis on lui a aussi reproché ou mis en question cette tenue traditionnelle, etc. Mais ce n'est pas anodin pour lui. Il appartient au groupe ethnique Zoulou. Et d'ailleurs, s'il a été élu, s'il a été d'abord désigné par l'ANC comme successeur de Thabo Mbeki, qui après l'avoir renversé, a
brutalement politiquement à Mbeki, c'est parce qu'il était soutenu à l'intérieur de l'ANC par les branches ANC du KwaZulu. Et parce que Thabo Mbeki, son prédécesseur, et Nelson Mandela appartenaient tous les deux au groupe COSA. Et qu'il y a eu ce discours qui était, eh bien maintenant, ça va être le tour des Zoulous. On a eu un pouvoir dans l'ANC COSA pendant très longtemps, ça va être le tour des Zoulous. Et lors de son procès pour viol en 2008, devant la salle du tribunal, vous aviez des jeunes gens et des jeunes femmes qui portaient un t-shirt, Jacob Zuma, a real Zulu boy, un vrai homme Zulu. Ce discours est extrêmement inquiétant, il a été utilisé par Zuma lui-même et il est très différent de l'histoire de l'ANC, qui a toujours été une histoire, au contraire, qui voulait surtout ne pas mobiliser cette identification ethnique, surtout se définir comme multiracial et transethnique, et considérer que la lutte, c'était pas ça l'objet. D'autant qu'à la fin de l'apartheid, on a eu des violences interethniques extrêmement fortes manipulées par le régime de Pretoria. Mais néanmoins, ça existe. Néanmoins, ça a été construit. Et c'est aussi une des fractures aujourd'hui. Il faut bien voir que ça signifie des langues différentes, des pratiques culturelles différentes, mais des langues différentes. Peut-être que ça fait partie de l'arc-en-ciel, peut-être que ça ne fait pas suffisamment partie des affluents qui se rencontrent. Et c'est une vraie question que celle de l'ethnicisme, d'une certaine ethnicisation pardon, de la vie politique sud-africaine. C'est d'autant plus une question qu'on sait que souvent, en Afrique subsaharienne, en tout cas, ces questions ethniques sont manipulées, reprises et peuvent aboutir à des conflits identitaires extrêmement violents. Alors, c'est un peu flou, je ne sais pas si c'est mes cartes ou la projection, mais s'il est possible que ce soit mes cartes. Théoriquement, les Bantoustans, les réserves, tout ça est effacé depuis 1994 par la nouvelle carte de l'Afrique du Sud, qui est cette carte qui représente les neuf provinces sud-africaines. Mais c'est très théorique comme effacement. Bien sûr, c'est effacé sur la carte. On a redessiné les provinces, tous les Bantoustans sont intégrés dans des provinces qui sont multiraciales par définition. Mais c'est très théorique parce que quand vous circulez dans le pays, vous rencontrez toujours, bien sûr, les zones d'anciens Bantoustans et vous les identifiez immédiatement. Vous passez grossièrement de zones d'agriculture commerciale, de culture de plantation, ici des bananes, d'une agriculture moderne, plus ou moins intensive selon le type de production, à des zones, au contraire, de très forte densité humaine, souvent caractérisées par des érosions des terres extrêmement fortes, hein, du fait de surpâturage, du fait de suroccupation. Et cette inégalité dans l'espace, elle est extrêmement forte. Et on a encore aujourd'hui pratiquement 15 millions de Sud-Africains qui vivent dans ces anciennes réserves. Où le taux de chômage, je disais, il est 30% à l'échelle nationale, mais là, il est plutôt de 55-60%. Et souvent, les gens n'y vivent que de revenus qui viennent de la ville, c'est-à-dire vous y trouvez soit des très jeunes et les plus âgés qui gardent les jeunes enfants pendant que les actifs sont en ville, s'ils y ont un emploi, donc des poches de pauvreté extrêmement grandes. Et ça, c'est une fracture évidemment forte parce que ça correspond à une des principales promesses non tenues de la fin de l'apartheid, c'est-à-dire la promesse de redistribuer les terres. La promesse de redistribuer, en 1994, quand l'ANC arrive au pouvoir, 30% des terres blanches. Alors, il y a des débats sur combien de terres ont effectivement été redistribuées depuis 1994, mais en tout cas, on en est très 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 loin, c'est plutôt 6-7% qui ont été redistribuées. Soit redistribuées pour faire de l'agriculture en rachetant les terres à des fermiers blancs, soit, on dit restituer, c'est-à-dire restituer à des communautés rurales qui ont pu prouver qu'elles avaient été expulsées de ces terres pour des raisons raciales au XXe siècle. Mais même cette politique de redistribution, elle est un grand échec, parce qu'une grande majorité des terres qui ont été redistribuées ne sont plus cultivées. Ce qui tendrait à prouver que, on pourrait dire, on a bien fait de ne pas en redistribuer plus. On comprend bien l'enjeu. L'enjeu, c'est une agriculture moderne, exportatrice, rentable, qui exporte et qui nourrit les gens, qui fait que le pays exporte du maïs plus qu'il n'en importe, d'un côté. Et de l'autre côté, la promesse et des situations de grande pauvreté dans les zones rurales, mais aussi urbaines, mais surtout dans les zones rurales. Et bien sûr, juste au nord de l'Afrique du Sud, vous avez un pays qui s'appelle le Zimbabwe, où à partir de l'an 2000, le chef de l'État, Robert Mugabe, pour se maintenir au pouvoir, alors qu'il est au pouvoir depuis 1981, a lancé ce qu'il a appelé une réforme agraire accélérée, qui s'est traduite par l'expulsion violente des fermiers blancs, l'invasion des fermes, la distribution de terres, notamment à une élite du parti politique de Robert Mugabe, et puis l'effondrement complet de la production agricole, des situations de, non seulement de disette, mais de famine, une émigration massive, une situation dramatique. Mais depuis l'Afrique du Sud, un habitant d'un Bantoustan qui, depuis 1994, n'a vu aucun changement à sa situation, se dit au Zimbabwe, on a redistribué les terres. Au Zimbabwe, ça s'est fait. Ah ben oui, bien sûr, d'accord, il y a tel problème, mais chez nous, on n'a rien fait alors qu'on l'avait promis. Et ça constitue un discours très fort pour l'opposition politique située, je ne sais pas s'il faut dire à gauche ou à droite, c'est pas tout à fait la même, située en tout cas, une opposition politique qui accuse l'ANC d'avoir trahi, de ne pas avoir tenu ses promesses. Et cette opposition est candidate aux prochaines élections d'avril 2014. Elle est dirigée par un homme jeune, qui a moins de 40 ans, qui s'appelle Julius Malema, qui est un ancien membre de l'ANC, qui était un ancien leader des jeunesses de l'ANC, comme Mandela, à l'époque, était un leader des jeunesses de l'ANC, puis qui a finalement été exclu de l'ANC du fait de ses propos outranciers, ses accusations contre Jacob Zuma, qui a été un temps un soutien de Jacob Zuma, puis l'a laissé tomber. Julius Malema qui a créé son parti politique en 2013, qui s'appelle les Economic Freedom Fighters, donc les combattants de la lutte pour la liberté économique, et qui dit, bon, on a obtenu des droits politiques, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Il faut renverser ce gouvernement et il faut redistribuer les terres, nationaliser les mines, nationaliser les banques. Et ça marche très bien. Ce discours marche très bien. Ce discours marche très bien quand vous avez pratiquement la moitié de la population qui au fond, peut se dire qu'est-ce que j'ai de plus ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Bien sûr, je peux aller voter, mais qu'est-ce que j'ai de plus ? Dans le même temps, disons de l'autre côté de l'échiquier politique, vous avez la naissance d'un autre parti politique qui, lui, est dirigé par Madame Rampele, qui est une ancienne, qui est un personnage politique important, qui était l'ancienne compagne de Steve Biko, un des grands leaders du mouvement de la conscience noire dans les années 70. Et cet autre parti politique qui est né cette année en vue des élections, lui, tient un discours simplement anticorruption. Il faut changer le gouvernement parce qu'il est trop corrompu. Et autour de Jacob Zuma lui-même, tout un univers de corruption, c'est indiscutable, tourne vie. Le dernier scandale a été les millions d'argent public qu'il aurait dépensé pour sa résidence personnelle, son alliance avec une famille d'origine indienne, de milieux d'affaires extrêmement douteux, etc., etc., etc. Et on vient d'apprendre que cette Madame Rampele, une femme noire de la région du Cap, serait le candidat au mois d'avril d'un quatrième parti politique, d'accord, Economic Freedom Fighter, ANC, mouvement de Madame Rampele, d'un quatrième parti politique, qui est le premier parti politique de l'opposition, qui s'appelle l'Alliance démocratique, qui est le parti pour lequel la population blanche vote dans sa grande majorité, qui est souvent d'ailleurs pointé du doigt comme cela, c'est le parti des Blancs, héritier de partis libéraux blancs, d'ailleurs, qui existaient sous l'apartheid. Cette femme noire va être la candidate à l'élection présidentielle de ce parti. Ce qui veut dire que la question raciale, elle reste encore centrale, parce que les leaders de ce parti disent « Vous ne pourrez plus nous accuser d'être le parti des Blancs, nous avons une femme noire à notre tête », et ils s'efforcent de recruter aussi dans la population noire. Et pour la première fois, d'ailleurs, l'ANC a des sondages moins bons qu'aux élections précédentes. Depuis 1994, l'ANC a remporté toutes les élections avec plus de 60% des voix, parfois 70%, sauf dans certaines provinces. On peut faire le détail dans quelle province, la région du Cap, certaines... Pour la première fois, il semble qu'il y ait une vraie inquiétude au sein de l'ANC sur quoi atteindre les 50% à l'échelle nationale, avoir effectivement un chef d'État. Et Jacob Zuma lui-même est très fortement en question, puisque une partie des critiques qui lui sont adressées sont liées à sa propre corruption. Il est 15h31. Alors, je prends encore quelques minutes. Je disais inégalité sociale, bien sûr. Alors, et ces inégalités entre anciennes terres blanches, anciennes terres noires, elles se retrouvent à l'échelle provinciale. Hein, c'est simplement ce que je voulais dire dans cette carte. Vous avez deux provinces riches, deux provinces qui émergent très nettement. C'est la région du Cap au sud du pays, donc la province du Cap de l'Ouest, et puis la province du Gauteng, qui est la province de Pretoria, Johannesburg, où vous avez vraiment les deux pôles économiques majeurs du pays. Et là, c'est traduit simplement par le produit intérieur brut, très nettement supérieur des provinces les plus pauvres. La croissance démographique est très faible par rapport à beaucoup de pays africains en Afrique du Sud. Hein. Elle est pratiquement la population sud-africaine n'augmente plus que par immigration. Le taux d'accroissement naturel est inférieur à 1%. Alors il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Il y a la baisse du nombre d'enfants et de la fertilité, et puis il y a une mauvaise raison qui est le sida, bien sûr. Mais en tout cas, on a une population à peu près stable. Par contre, à l'intérieur du pays, une forte mobilité de migration, notamment des anciens bantoustans et des zones les plus pauvres, vers les grandes villes, avec des problèmes urbains spécifiques, donc dans la région de Gauteng et la région du Cap, mais aussi à Durban, qui est la troisième grande métropole, située là au KwaZulu-Natal, sur l'océan Indien. Ce qui veut dire qu'il y a aussi... Et je vais peut-être que je terminerai là-dessus pour laisser du temps aux questions. Hein. Il y a aussi depuis 20 ans, des politiques extrêmement positives qui ont été mises en œuvre. Il ne s'est pas du tout rien passé pour rattraper les inégalités sociales. Alors là, vous avez un panneau publicitaire, officiel évidemment, mais qui dit quand même... 2,7 millions de maisons construites en 14 ans. Ça veut dire que le panneau date un peu. Mais oui, on a construit massivement des logements. Beaucoup de quartiers n'avaient pas d'accès à l'eau correctement. Beaucoup de quartiers et de zones rurales étaient sans centre de soins, sans dispensaire ou avec des écoles dans des états dramatiques. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup moins que ce qui avait été promis, beaucoup moins vite que ce que ça avait été annoncé, mais beaucoup de choses ont été faites. Sur ce plan-là. Et dans le même temps, beaucoup de choses ont été modernisées dans l'économie sud-africaine. Parce qu'il s'agissait aussi de cela, il s'agissait aussi de passer d'une situation de fermeture du pays sur lui-même, avec des boycotts internationaux, plus ou moins suivis, mais des boycotts internationaux, une relative donc fermeture, à... rentrer dans la compétition économique mondiale, tout d'un coup, en même temps qu'il fallait rattraper les injustices. Et là, on est dans un dilemme qui était extrêmement difficile pour le gouvernement post-apartheid. Comment est-ce qu'on fait les deux choses à la fois? Comment est-ce qu'à la fois, on modernise, on devient compétitif? C'est-à-dire qu'on perd des emplois. On perd des emplois parce qu'on modernise l'industrie, on se tertiarise. Et en même temps, redistribuer et avoir les moyens de cette redistribution. bien sûr, les deux objectifs ont été poursuivis en même temps, souvent, le plus souvent en général, enfin, j'allais dire toujours, avec une grande bonne foi. Et le choix a été, alors qu'au début des années 90, il a plutôt été « on redistribue », c'est la période Mandela, réconciliation, et l'accent est mis là-dessus. Petit à petit, et surtout avec la présidence de Thabo Mbeki, le choix a été réorienté. On a dit, bon, on ne va pas y arriver comme ça, parce qu'on peut construire des maisons, on peut apporter de l'électricité. Mais si les gens n'ont pas d'emploi et n'ont donc pas les moyens de payer pour ces maisons et de payer pour ces électricités, Non, on va faire autrement, on va plutôt orienter vers plus de croissance économique. Et plus de croissance économique, et on connaît ce raisonnement, plus de croissance économique, ça va permettre de créer des emplois. Et donc on va avancer, on pourra rattraper. Seulement, ça n'a pas permis de créer d'emplois. Par contre, ça a fait de la croissance économique. Alors aujourd'hui, elle est beaucoup moins forte, elle n'est plus qu'autour de 2% par an, mais elle a été de 5%, 6%. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'Afrique du Sud est devenue un BRICS. C'est à ce moment-là qu'on a dit c'est un pays émergent, une économie émergente. Et oui, c'est vrai, c'est une économie émergente. Mais ce n'est pas parce que c'est une économie émergente que les inégalités ont été réduites. D'où les incertitudes sur l'avenir. Et je propose de m'arrêter.
José, s'il vous plaît, je m'aperçois qu'il n'y a pas les micros HF pour poser les questions. Vous pouvez les descendre, s'il vous plaît ? Merci. Alors, en attendant justement que José descende les micros, merci. Je vais en profiter pour vous poser une question parce que justement, en vous entendant, je pensais à un concept autour duquel en France il y a de nombreux débats, c'est le concept du communautarisme. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'en Afrique du Sud, on vit ce communautarisme ? À savoir donc, il me semble, des communautés qui sont juxtaposées les unes aux autres, qui ont des droits politiques qui effectivement leur permettent justement de vivre, merci José, de vivre justement dans le même pays, mais sans qu'il y ait réellement justement de passage donc d'une communauté à une autre.
Oui, on a du mal à comprendre. L'Afrique du Sud, cette question-là en Afrique du Sud, enfin moi j'ai du mal à la comprendre en tant que Français avec cette culture et tradition française qui privilégie plutôt la mixité, l'intégration. Leur modèle est beaucoup plus états-unien, c'est-à-dire effectivement avoir des communautés qui ont les mêmes droits mais qui peuvent aussi vivre. Et je dirais même que l'objectif des politiques d'après 1994 n'a pas tellement été la déségrégation. Ce n'est pas tellement le but de faire que les gens se mélangent. Par exemple, pas forcément qu'ils habitent dans les mêmes quartiers. L'idée de mixité sociale, au fond, n'est pas une idée qu'on a souvent quand on va en Afrique. Ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, ça a bougé, bien sûr. Il y a des élites qui ont changé de quartier, des gens qui habitent côte à côte. Mais ce n'est pas, c'est pas en soi un objectif. Du coup, effectivement, on vit en communauté. Mais on peut vivre en communauté dans les mêmes lieux. C'est-à-dire, vous allez aujourd'hui dans une université sud-africaine, elle sera tout à fait, dans la plupart des cas, elle sera tout à fait multiraciale. Vous verrez des gens de couleurs de peau différentes. Mais si vous regardez plus attentivement, il est probable qu'au restaurant universitaire, vous allez voir des tables où vous aurez des groupes qui seront plutôt blancs et des groupes qui seront plutôt... C'est en train de bouger tout ça, mais c'est vraiment comme ça, ça n'empêche pas de cohabiter, mais c'est vrai qu'on continue et c'est vrai que... Alors après, ça dépend très fortement des lieux. C'est-à-dire à Johannesburg ou au Cap, dans les quartiers branchés de Johannesburg, du Cap ou de Durban, vous avez des couples mixtes, vous avez une diversité, vous avez des interactions dans les salles de spectacle, dans un milieu intellectuel. Mais si vous allez dans une petite ville de l'État libre d'Orange... dans une ville secondaire, même à Bloemfontein, qui est la capitale de l'État libre d'Orange, là, vous verrez une autre histoire qui est vraiment, vraiment peu de changements, vraiment peu de mouvements. Donc ça dépend vraiment des lieux et des moments.
D'accord. Oui, monsieur.
Oui. Est-ce que c'est enfin un pays où le problème religieux, justement, n'est pas un problème, ou bien, au-delà des ethnies, il y a aussi des clivages religieux ?
Oui, j'avais ça c'est une... Je vous remercie. Ça, c'est un, j'ai dit social, racial, ethnique, et il y a cette question du religieux. Alors, dire que ce n'est... Alors, je ne sais pas dire, je sais pas si le religieux est un problème, je n'ai pas de... Il y a des questions religieuses qui se posent dans la société sud-africaine, mais un peu comme sur d'autres plans, il y a une grande diversité religieuse. Grande diversité, avec un poids du protestantisme extrêmement important, mais à l'intérieur du protestantisme, une subdivision importante, comme toujours. Dans la population noire, une majorité de membres de religions dites syncrétiques, donc d'églises africaines, l'église de Sion étant la plus grande et la plus importante, et puis des communautés musulmanes, notamment dans la population indienne, bien sûr, et hindouiste aussi, mais en majorité musulmane, et puis dans la population colorée. La ville du Cap, vous êtes surpris, parce que vous avez des mosquées, des temples protestants. Et il y a eu quelques mouvements qui utilisaient cette identité musulmane. Notamment dans la ville du Cap, par exemple, il y a quelques années, il est encore un petit peu actif, un mouvement célèbre qui se définissait comme les musulmans du Cap contre les trafiquants de drogue, les bandits, le crime, la violence, et qui utilisait ça comme structuration identitaire, se définissait non plus racialement, mais de façon religieuse. À part ça, c'est pas un problème au sens où il n'y a pas de conflit entre groupes religieux où les identités religieuses ne sont pas utilisées dans le cadre de luttes politiques ou de conflits. Non, vraiment pas. Et puis, il ne faut pas oublier que les églises en Afrique du Sud ont joué un rôle sous l'apartheid, notamment dans la lutte et la résistance contre l'apartheid, extrêmement important. Le personnage de Desmond Tutu est le plus connu, hein, mais c'est un archevêque anglican. Et l'église anglicane a pris position, certaines églises protestantes ont pris position, l'église catholique a pris position. Donc elles sont, par rapport au gouvernement post-apartheid, ANC, communiste, il y a aussi un lien très fort qui vient de cette histoire, de cette époque, qui au fond est pour beaucoup une grande nostalgie, hein, de l'époque où la lutte c'était clair, on savait contre quoi on se battait, on pouvait avoir une alliance de la société civile et des partis politiques. Ça s'est distendu, mais ça reste des liens entre le politique et le religieux.
Monsieur ?
Oui, le développement culturel est souvent le socle du développement économique. Alors, quel est l'état de l'éducation en Afrique du Sud ? Et est-ce que cet état-là n'explique pas en grande partie la croissance des inégalités ?
Le système éducatif... Il est très critiqué, il n'est pas dans un bon état du tout. Hein, et plus vous êtes dans les régions, dans les zones populaires, plus il est mauvais, avec encore des classes surchargées, avec encore des enseignants peu ou mal formés, c'est évident. En plus, vous avez beaucoup de situations où la nouvelle classe moyenne en ville, parfois elle s'est déplacée vers des quartiers aisés. Et donc ses enfants en même temps vers des écoles d'anciens quartiers aisés, c'est-à-dire vers ce qui était le système éducatif réservé aux Blancs. Et même quand elle n'a pas bougé, elle fait tous ses efforts pour envoyer ses enfants dans ces écoles. Le système hérité de l'apartheid, c'était deux systèmes éducatifs complètement disjoints. D'un côté le système blanc, de l'autre le système noir, et ça se poursuivait jusqu'à l'université, avec des universités réservées aux Noirs, des universités réservées aux Blancs. C'est tout ça qu'il a fallu intégrer. On a mis des moyens, donc on a construit des écoles, on a construit des bâtiments, on a ouvert des postes d'enseignants. Mais sur le contenu et sur la qualité, ce n'est pas mon domaine en particulier, mais il est extrêmement critiqué et manifestement il n'est pas à la hauteur. Et c'était un des grands discours de Mandela, centré sur l'éducation, centré sur les générations futures. Et alors les gens sont scolarisés, ça c'est un succès, les gens vont à l'école. Après des années où l'école était boycottée, où l'école était jugée comme étant un outil de l'état de l'apartheid. Les gens sont aujourd'hui scolarisés, mais on manque de certains... Dans beaucoup de domaines, il y a des manques, et le système éducatif n'est pas du tout en bon état.
M.
Monsieur.
Oui. Dans un autre domaine, je voulais vous demander comment sont à l'heure actuelle les relations de l'Afrique du Sud nouvelle avec les pays qu'elle dominait auparavant, c'est-à-dire le Botswana et l'ancien sud-ouest africain, la Namibie.
Et le Mozambique.
Mozambique, c'était quand même les Portugais.
Ben, le pays qui est peut-être le plus dominé aujourd'hui économiquement, c'est le Mozambique. Les principaux employeurs au Mozambique sont des employeurs sud-africains. Il y a eu une explosion, une extension des capitaux sud-africains, des entreprises sud-africaines dans toute la zone, en tout cas Namibie, Malawi, Zimbabwe aussi, et Mozambique. Donc on est dans une situation de domination économique évidente. Alors après, il y a des situations différentes selon le pays. Le plus dominé, évidemment, étant le Lesotho, les deux plus dominés, étant évidemment le Lesotho et le Swaziland, c'est de tout petits micro-territoires. Et puis ensuite, la Namibie. Tout cet ensemble-là fait partie de la communauté douanière d'Afrique australe, c'est-à-dire on a la mise en commun des droits de douane, donc beaucoup de redistribution par là de l'Afrique du Sud vers ces pays, mais une domination économique complète. C'est Robert Mugabe qui, à la fin des années 90, avait dit l'Afrique du Sud de Mandela nous a fait plus de mal que l'Afrique du Sud de l'apartheid, parce que c'était Robert Mugabe, donc ça prête à caution, mais une des raisons de notre effondrement économique, c'est que les entreprises sud-africaines nous ont envahis. Effectivement, si vous allez à Harare ou si vous allez à Lilongwe au Malawi, dans les supermarchés, qu'est-ce que vous trouvez ? Des productions sud-africaines et même des chaînes de supermarchés sud-africaines et la compagnie de téléphone mobile sera sud-africaine, etc. À part ça, politiquement, les relations sont bonnes. Hein. On est dans la communauté des États d'Afrique australe, des échanges économiques importants. Il y a deux points problématiques, c'est la domination économique, la dépendance économique de ces pays, et l'autre, c'est les questions d'immigration. Et l'Afrique du Sud, je crois, a bien compris que si elle voulait réduire les flux migratoires vers l'Afrique du Sud, il fallait qu'elle contribue au développement de la région, parce que sinon, on ne se sortirait pas de ce cycle migratoire qui est une vraie difficulté pour l'Afrique du Sud aujourd'hui.
Madame ? Je peux vous demander, à l'époque de notre transparence, est-ce qu'on ne peut pas empêcher que les leaders se servent de l'argent public d'une façon inconsidérée, comme le fait actuellement Zuma ? Et deuxième partie, est-ce que Mbeke a fait la même chose dans le passé ? Parce que Mandela, Madiba n'a pas fait ce genre d'utilisation de l'argent public.
Ce qui est intéressant en Afrique du Sud, je crois, se trouve, c'est que on est au courant. C'est-à-dire, il y a une presse presque tout à fait libre et tous ces scandales financiers, ils émergent, ils apparaissent, on en parle. C'est pas le cas partout et c'est pas le cas notamment dans toute dans la région. Du coup, c'est un peu une façon de répondre. C'est-à-dire, il y a des conséquences. Et on peut penser qu'il y aura des conséquences électorales prochainement. Peut-être. Ça, c'est une question. Pourquoi les gens continuent de voter pour l'ANC alors qu'ils savent que... Mais on le sait, ça sort. Oui, Mandela, bien sûr, pas du tout. Alors, Mandela, comme modèle d'homme d'État et d'honnêteté, est absolument extraordinaire. Il y a un autre dessin de Zapiro que je n'ai pas voulu montrer... Mais qui est dans le volume de la documentation française où vous avez, c'est une représentation de l'évolution de l'espèce humaine, et vous avez au début Hendrik Verwoerd qui est le premier ministre de l'époque de l'apartheid, et puis une petite amélioration de ces hommes blancs. Au milieu, vous avez Mandela, droit, qui tient le mot démocratie dans la main, et puis après, vous avez Mbeki et Zuma, et ça redescend comme ça. C'est terrifiant. Mais c'est pas faux, Mandela représente ce moment-là. Alors Mbeki était un régime où il y a eu beaucoup de scandales de corruption. Il y en a eu un majeur, central, qui a entaché toute sa période de gouvernement. C'est un scandale sur les ventes d'armes, les achats d'armes à l'étranger.
Zuma, qui était vice-président à l'époque, était déjà impliqué. Donc, c'est-à-dire des pots de vin par des sociétés de vente d'armement à l'Afrique du Sud versés jusqu'au sommet de l'État sud-africain et peut-être jusqu'à Mbeki. Bon. Mais c'était beaucoup moins sous Mbeki des scandales qui impliquaient la famille. Parce que sur Zuma, on peut parler pendant des heures hein, de son fils, son petit-fils, le cousin qui s'est enrichi. C'est absolument remarquable. C'est toute la famille, c'est le clan. Quoi. Et donc ça, il n'y avait pas ça sous Mbeki. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est postérieur. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que Julius Malema, dont je parlais, qui est donc ce leader des Economic Freedom Fighters, il est lui aussi poursuivi par le fisc, il a lui aussi construit une maison payée des milliards, il est lui aussi impliqué dans une corruption gravissime. Voilà, donc, alors la réponse, est-ce qu'on peut l'empêcher
Mais est-ce que, oui, je vous donne la parole, Claude. Mais est-ce que cette corruption dont vous parlez, effectivement, et qui bien sûr est regrettable, ça va de soi, mais est-ce que ça n'est pas tout de même la maladie ou une maladie des nouvelles, toutes nouvelles démocraties issues de la colonisation? Mais c'est bien que vous réagissiez, je ne sais pas dans quel sens vous... Mais est-ce que, donc, elle ne peut pas être considérée comme cela, même s'il y en a dans nos pays des vieilles démocraties? Mais est-ce qu'elle n'est pas plus développée dans ces nouveaux pays démocratiques et qui, en plus de cela, se construisent sur donc l'organisation autour d'ethnies, d'ethnies les unes justement à côté des autres, de communautarisme?
Non, je pense pas. Elle est beaucoup plus forte. La corruption est beaucoup plus forte dans un régime non démocratique de toute façon. Où il n'y a pas de presse. Enfin, Mobutu ou je ne sais quel chef d'État. Dans un régime non démocratique, elle est infiniment plus forte. Parce que là, c'est pas la même chose. Ça, c'est complètement, c'est une proportion radicalement différente. C'est-à-dire, c'est la totalité de la richesse d'un pays. C'est-à-dire, on a un chef d'État dans ce cas-là qui est plus riche que son propre pays. Ça n'a, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud reste un pays où l'État est fort, l'État a des moyens, et ces moyens ne sont pas réduits par la corruption du sommet de l'État. Là, en gros. Pour parler de proportion, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans des systèmes de corruption, d'accord, pas de détenement. C'est pas nouveau en Afrique du Sud. Les régimes, la corruption de la classe politique, elle existe sous l'apartheid, bien sûr. La classe politique blanche sous l'apartheid est aussi corrompue. Hein. Mais à l'époque, il n'y a pas de presse libre et démocratique qui peut s'exprimer et qui peut le dire. Donc non, c'est une tradition ancienne, par exemple. Mais je dirais à tout niveau, le policier qui arrête un transport collectif surchargé et qui, au lieu de mettre une amende, dit bah, donnez-moi 50 rand et ça ira bien et passer. Bon, ben bah, il est corrompu. Mais le policier blanc qui, sous l'apartheid, arrêtait un homme noir qui n'avait pas des papiers en règle et qui se faisait corrompre, était aussi corrompu. Je crois qu'il y a pas de, il y a une histoire un peu universelle. Simplement, la forme que ça prend aujourd'hui est liée aussi, au fond, à une attitude. Alors, je reprends l'exemple de Julius Malema, donc cet homme qui se dit d'extrême gauche, qui prône la nationalisation des banques et des mines, et qui se dit le défenseur des classes populaires et des plus pauvres, et qui en même temps s'enrichit lui-même personnellement. Et il est dans la province du Limpopo, il adore les Rolex, il adore les chaussures italiennes, c'est extraordinaire. Bon. Et quand on lui dit, mais alors c'est absolument incroyable, vous êtes à la fois, vous avez ce discours et vous êtes dans cette corruption, il dit oui, mais pourquoi est-ce que j'aurais des scrupules? Nous avons été opprimés pendant très très longtemps, nous aimons les belles choses, tout le monde me comprend, les autres aussi, ils ont envie de s'enrichir. Simplement, moi je le montre, je le dis et je fais pas ça en cachette. Et ce discours-là, il passe pas trop mal.
Monsieur, allez-y.
Une question qui s'adresse aux géographes.
Bien dans le micro, comme ça, perpendiculaire. Merci.
Une question qui s'adresse aux géographes. L'Afrique du Sud donc, est un pays fédéral qui comprend, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, ces deux petits États enclavés. le Lesotho et je crois
Swaziland.
Le Swaziland, oui. Donc je vais savoir si, ça révèle quand même une certaine discontinuité territoriale, et je voulais savoir si ça posait un problème spécifique, si ces deux États avaient tous les attributs de la souveraineté internationale au plan du droit, et si même s'ils l'ont, est-ce que ça ne pose pas un problème particulier que ces enclaves, est-ce que c'est un enjeu de politique intérieure, est-ce que ça provoque des réactions nationalistes, et est-ce que ça pèse aussi sur l'économie du pays dans son ensemble?
Du pays l'Afrique du Sud ou du
non,
pays
l'Afrique du Sud.
De l'Afrique du Sud. Alors, on peut les distinguer, hein, mais c'est deux situations effectivement géographiques bizarres. Le Lesotho surtout, puisque le Lesotho, sauf erreur, c'est le seul pays du monde qui est entièrement enclavé à l'intérieur d'un autre. Sauf erreur, c'est ça. Alors que le Swaziland, il a une frontière avec le Mozambique et des frontières avec l'Afrique du Sud. Donc il est dans une situation un petit peu différente. Ce sont tous les deux des héritages historiques de l'époque britannique, c'est-à-dire, au fond, c'était deux protectorats britanniques qui avaient été utilisés notamment par les Britanniques pour limiter l'extension des républiques bourgs sud-africaines. Le Lesotho, c'est ça son histoire, c'est créé à la demande du roi du Lesotho, du roi Moshoeshoe, du roi du groupe des Soutou du Sud, qui se tournent vers les Britanniques pour leur dire, écoutez, les blancs bourgs africaneurs sont en train de nous prendre toutes nos terres et vont nous envahir, défendez-nous. Et hop, on leur donne un protectorat et les Britanniques sont bien contents d'embêter les bourgs. Swaziland est un petit peu la même histoire, avec une histoire plus compliquée, puisqu'il est passé sous deux autorités différentes. Le Lesotho, comme le Swaziland, il y a un tout petit peu de mine de diamant au Lesotho, des plantations de canne à sucre et de tabac au Swaziland, mais pratiquement pas de ressources naturelles. Une population qui donc ne peut... alors, une partie de la population rurale, agricole, mais sinon, c'est des pays qui vivent vraiment sur l'émigration vers l'Afrique du Sud. Et ça a toujours été le cas. Le principal revenu du Lesotho a toujours été les renvois d'argent des mineurs qui travaillaient en Afrique du Sud. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça ne pose pas de problème particulier à l'Afrique du Sud. Pour le Lesotho, il y a eu beaucoup d'hésitations parce que, au fond, c'est le modèle idéal du Bantoustan. C'est-à-dire un État complètement enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. On peut en faire venir des migrants, on peut les faire repartir. C'était ça, le Bantoustan. C'était créer d'autres Lesotho. Dans certains cas, l'Afrique du Sud est allée jusqu'à leur accorder l'indépendance. Donc vraiment, okay. Dans les années 90, par contre, le Lesotho, à l'intérieur du Lesotho, il y a des revendications à intégrer l'Afrique du Sud. Parce qu'on voit bien que les Bantoustans vont disparaître et qu'on va se retrouver. Pourquoi pas nous, au fond? Et puis ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, notamment liées à la classe politique du Lesotho et sud-africaine. Il y a eu plusieurs coups d'État au Lesotho, l'armée sud-africaine est intervenue, donc on est évidemment dans une domination économique complète, politique aussi, mais c'est terminé, enfin il n'est pas question, il n'est plus question de ça. Ils ont la souveraineté totale, alors ce sont des royautés. Et surtout le Swaziland, qui n'est vraiment pas une démocratie, où le roi Swati III, c'est pas trois femmes, c'est 108. Et là, vous avez un régime corrompu au Swaziland, interdiction des partis politiques, interdiction des grèves, depuis quelques années, beaucoup de revendications. Alors là, s'il y a une revendication sociale qui se sert du modèle sud-africain, c'est à l'intérieur du Swaziland, pour renverser ce régime autoritaire et la richesse et la fortune du roi du Swaziland, de la famille royale. Donc, c'est des situations vraiment intéressantes dans ces petits États, mais ils ont la souveraineté pleine et entière. À l'Afrique du Sud elle-même, ça ne pose pas de problème, hein, sachant que, il faut voir où c'est situé, le Lesotho, certes, c'est au milieu de l'Afrique du Sud, mais c'est la montagne, c'est le Drakensberg. C'est d'ailleurs les deux seules stations de sport d'hiver, de ski d'Afrique australe, qui sont sur les hauteurs du Lesotho. Donc de toute façon, c'est pas un axe de circulation non plus.
C'est vraiment une enclave. Pour aller au Lesotho, il faut vraiment vouloir aller au Lesotho. Sinon, on ne le traverse pas. C'est d'ailleurs difficile de passer d'un bout à l'autre. Voilà, si ça répond un peu à la question.
Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, M. Germain Lambonnier.
Merci beaucoup.